Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, à Clermont ou ailleurs. Ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média au menu. Média et culture au sens large, tous les médias, toutes les formes de culture. Et comme me faisait remarquer hier Louise Bernard, et à la raison, on est là même le 11 novembre. On vient demain, oui on vient demain. Pas de rediff, pas de numéro en boîte coupé de l'actualité, non, rien que du frais du jour en direct. Et merci à ma fabuleuse équipe de l'ombre d'être présente en ce jour férié. Alice Bluzet, Alice Fauss, Joy Raffin et Jérémy Hébert et ses équipes aux manettes. Louise Bernard sera justement là, elle est déjà dans ce studio pour son journal des médias. Vous retrouverez également Bruno Donnet pour ses télescopages et Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage. Nos indispensables du jour à parler jeux vidéo et littérature avec Nicolas Carreau. Et puis comme nous sommes vendredi, l'actualité et les coulisses du sport business avec Sacha Novković, le prononce bien, du journal L'Équipe. Notre info média du jour, nous serons avec le sociologue Rémi Rieffel. Il publie un essai, L'emprise médiatique sur le débat d'idées, 30 années de vie intellectuelle, ça va de 89 à 2019. Sa thèse, eh bien, c'est que les clashs des médias ont bouleversé très souvent les débats intellectuels, voire remplacé. Enfin, une légende du cinéma avec nous, une figure mondiale, Claude Lelouch. Il propose un spectacle symphonique, Claude Lelouch, d'un film à l'autre, avec 80 musiciens de l'orchestre philharmonique de Prague. Culture Média, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média.
Tout de suite. C'était un post-jingle de 3 secondes. Vous avez raison, Louise Bernard. Au sommaire de votre journal des médias.
Bonjour.
Ouais, je vous ai même
vous
pas salué non plus.
Tout de suite,
ouais.
Le sommaire du journal des médias. Une nouvelle fiction de France Télévisions va devenir une collection de téléfilms. C'est une information de Culture Média. Michel Obama accorde une interview à deux médias français. Une violente dispute entre Cyril Hanouna et un député de la NUP hier soir. Et puis deux infos-séries aussi. L'une concerne TF1 et l'autre Georges Clooney.
Mais d'abord, on va commencer par les audiences. Qu'ont regardé les Français hier soir en prime time? C'était jour férié le lendemain, donc ça change un peu. Le podium.
C'est France 3 qui proposait une rediffusion pourtant, mais les téléfilms sur France 3, ça marche toujours. Vous le verrez aussi dans le journal. 3 230 000 téléspectateurs hier soir devant Le Pont des Oubliés. 16% de part d'audience. Pas très loin derrière, hein, c'est TF1 avec la suite de sa série Addict. 3 170 000 téléspectateurs hier soir. Ça augmente légèrement pour la une. Hein, 16,7% de part d'audience. Ça augmente en nombre de téléspectateurs. Troisième, c'est M6 qui proposait un nouveau numéro de Lego Master. 1 960 000 téléspectateurs, là aussi un petit peu plus en nombre de téléspectateurs, peut-être parce que c'est une veille de jour férié. En part d'audience, en revanche, ça baisse légèrement, 10,6% de part d'audience.
Europe 1, le journal des médias.
Information Culture Média, Belfond, la nouvelle fiction de France 3 devient une collection de téléfilms.
Oui, Stéphane Bern n'est pas prêt de quitter les plateaux de tournage. Son personnage d'Antoine Belfond va avoir le droit à plusieurs épisodes. Alors, on savait déjà qu'un deuxième était prévu. Il vient d'ailleurs d'être tourné, mais selon nos informations, deux autres épisodes sont déjà en écriture. France Télévisions en prévoit d'ailleurs 2 maximum par an. Mais oui, pourquoi se priver d'une suite quand on voit la bonne audience du premier épisode, plus de 4 millions de téléspectateurs sur France 3. C'était lors de sa diffusion mi-octobre. Belfond qui met en scène un ancien procureur devenu avocat pénaliste qui enquête pour lutter contre des injustices ou des erreurs judiciaires.
Michel Obama accorde une interview à deux médias français, C'est à vous et Brut.
Une interview qui sera diffusée mardi prochain, le 15 novembre à 20h45, à la fois sur France 5 et sur le média Brut. Elle sera menée par une même personne pour les deux médias. Alors non pas un ou une journaliste, mais une écrivaine, Leïla Slimani. C'est une interview qui devrait durer moins d'une vingtaine de minutes, autour de 18 selon nos informations. Et Leïla Slimani viendra parler de cet entretien sur le plateau de C'est à vous. Cette date du 15 novembre n'est évidemment pas choisie au hasard. C'est le jour de la sortie du nouveau livre de l'ancienne première dame des États-Unis. Ça s'appelle « Cette lumière en nous », c'est édité chez Flammarion. Elle y partage des conseils, des histoires, des stratégies efficaces pour rester optimiste et serein face aux incertitudes du monde actuel. Voilà ce que précise son éditeur. Les Obama sont décidément très friands du service public pour la promotion de son livre de mémoire. Barack Obama avait lui accordé une interview à François Bunel. C'était il y a 2 ans. Elle avait été diffusée sur France 2, juste après le journal de 20h.
Dans l'actualité également, une violente dispute entre Cyril Hanouna et un député invité hier sur le plateau de Touche pas à mon poste.
Louis Boyard, député de la NUP, qui se trouve aussi être un ancien chroniqueur de l'émission, il était invité hier et le débat portait sur l'accueil du bateau Ocean Viking par la France. Le député a alors critiqué au détour d'une phrase Vincent Bolloré et ses activités qui, je cite, appauvrissent la France et l'Afrique. Ce qui a fortement irrité Cyril Hanouna et ses chroniqueurs car l'animateur a tenu à rappeler au député qu'il était sur une chaîne du groupe qui appartient aussi à Vincent Bolloré. Il lui a donc demandé pourquoi il ne boycottait pas la chaîne et lui a rappelé qu'il y avait même travaillé comme chroniqueur. Louis Boyard, lui, s'est étonné de ne pas être libre de parler de Vincent Bolloré sur la chaîne, ce à quoi Cyril Hanouna a répondu ne pas cracher dans la main qui le nourrit. Tout au long de l'échange, qui a duré 10 minutes quand même, le ton est progressivement monté. L'animateur a insulté le député à plusieurs reprises. Il lui a aussi reproché de vouloir faire parler de lui, de faire un coup d'éclat. Et le député a finalement quitté le plateau.
Deux infos médias en bref. Les magazines publics France Dimanche et Ici Paris vont partager le même site internet.
Oui, le groupe auquel ils appartiennent, CMI France, vient d'annoncer que tous les articles allaient être regroupés sur le même site, sur le site de Public, public.fr, pour accéder à certains contenus. Maintenant, ceux qui sont directement issus des trois magazines, il faudra désormais payer 4,99€ par mois.
Le président de l'agence France Presse réélu.
Fabrice Friès vient d'être reconduit pour un deuxième mandat pour 5 années supplémentaires. Sans difficulté, le conseil d'administration a décidé de le réélire sans le mettre en concurrence avec d'autres candidats. Grâce à la bonne situation financière de l'AFP, dans un mail envoyé aux salariés, Fabrice Friès a indiqué que le conseil d'administration, je cite, a salué le redressement de l'agence. Je dois cette réélection à l'effort de tous. Voilà ce qu'il écrit. Le PDG s'est aussi dit fier et heureux.
Et on termine ce journal avec des actualités séries. TF1 a commandé une deuxième saison de sa série Vise le cœur.
Une série avec Claire Kay et Mélanie Gautry. Elle va donc avoir le droit à 6 nouveaux épisodes, selon Allociné. Le tournage doit commencer le mois prochain. C'est une saison 2 après la première diffusée en septembre avec des audiences correct, 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Bon, il faut dire que la série a été impactée par la coupure de la diffusion de TF1 par Canal+. Et puis, en deuxième semaine, par la mort de la reine d'Angleterre. C'était un jour de diffusion de la série, ce qui fait que les téléspectateurs avaient préféré regarder la soirée spéciale de France 2. Alors, cette série, elle met en scène une policière et un ancien avocat devenu lui aussi policier. Ils se retrouvent à travailler ensemble, alors qu'ils ont vécu une histoire d'amour lorsqu'ils étaient jeunes. Et la série fait des allers-retours entre plusieurs époques pour qu'on comprennent bien leur passé.
Et puis un film de George Clooney va devenir une série.
Good Night and Good Luck, c'était son deuxième film qui date de 2005, qui avait connu un succès au box-office, un succès critique aussi. Il avait d'ailleurs eu le droit à 6 nominations aux Oscars. Alors George Clooney a proposé à une chaîne américaine, AMC, d'adapter son film. 6 épisodes sont donc en cours d'écriture. Alors ce n'est pas lui qui va réaliser la série, contrairement au film. Ce n'est pas lui non plus qui l'écrit. Il va la produire en revanche. Et pour superviser ce projet, il a fait appel à ce qu'on appelle un showrunner. C'est une personne chargée de diriger le projet, de diriger notamment les scénaristes. C'est Jonathan Glatzer qui a travaillé sur l'excellente Succession et puis on peut aussi citer Better Call Saul. Il se dit fan du film et promet de ne pas faire un copier-coller. Alors ce film, lui, racontait l'histoire du présentateur du journal télévisé de la chaîne CBS et de son producteur qui ont contribué dans les années 50 à mettre fin à la carrière du sénateur Joseph McCarthy et de sa chasse aux sorcières anticommunistes. La série, elle, va suivre un caméraman de l'émission, partagé entre son ambition et son admiration pour le présentateur du journal.
Merci beaucoup Louise Bernard en ce 11 novembre. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média, même quand c'est férié, ça fonctionne. Europe1.fr. À lundi, Louise, pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.
À lundi.
Dans un instant, sur Europe 1, notre info média du jour, le sociologue des médias Rémi Rieffel, qui nous explique sa thèse. Pourquoi, selon lui, le débat d'idées est désormais placé sous l'emprise médiatique. Il nous explique, à tout de suite.
L'émission référence. 9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
De l'émission Apostrophe de Bernard Pivot au dernier talk show de France 2, Quelle époque, le samedi soir, le débat d'idées aurait peut-être disparu. C'est la thèse d'un essai qui vient de paraître. Le monde intellectuel a petit à petit subi l'attraction du monde médiatique et perdu une partie de son autonomie au profit des journalistes, des influenceurs, voire même de certains anonymes et des réseaux. Quelles modifications se sont produites au cours de ces 30 dernières années dans la production et la circulation des idées en France? Dans quelle mesure le débat d'idées se trouve désormais sous l'emprise des médias? Le terme est bien choisi avec nous, l'auteur de ce terme et de cet essai, Rémi Rieffel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue des médias, vous avez notamment publié les livres Que sont les médias ou Révolution numérique, Révolution culturelle. Votre dernier ouvrage, celui pour lequel on vous reçoit, c'est donc celui-ci, L'emprise médiatique sur le débat d'idées, c'est sous-titré 30 années de vie intellectuelle 89-2019, c'est publié au PUF, Presse universitaire de France. Quel a été le point de départ de cet essai? Même, je vous demanderais de le situer dans le temps. Vous vous êtes dit cette chose-là il y a 30 ans, ou il y a un peu plus en 89, ou c'était récemment quand vous êtes lancé dans l'écriture?
Alors, il se trouve que j'avais déjà, il y a un certain nombre d'années, travaillé sur cette question. Mmh. J'avais étudié la période des années 1958-1990. Et j'avais déjà constaté que durant cette période, le monde des médias commençait à avoir une importance assez forte auprès des intellectuels. Et on assistait déjà à la montée en puissance de ce qu'on appelait les intellectuels médiatiques dans les années 1970-1980.
On se souvient des nouveaux philosophes, voilà, notamment exactement. De BHL, mais pas seulement, voilà, ou Glucksmann, qu'on voyait chez Pivot.
Exactement, voilà, c'était un peu le point de départ. Alors, j'ai eu envie de poursuivre en me posant la question suivante. Qu'est-ce que finalement la télévision et surtout les médias numériques ont modifié dans cette configuration générale du monde intellectuel. Voilà, c'était ça le point de départ. Et j'ai pris donc une période d'une trentaine d'années, en partant de 1989, qui est une date symbolique. Puisque
c'est la chute du mur.
La chute du mur et parallèlement la création du web. Voilà, oui. Donc les deux sont liés. Et j'ai essayé de cerner un petit peu la montée en puissance des débats médiatiques à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux.
Alors
ça s'est fait progressivement, oui.
Voilà, vous prévenez d'entrée de jeu, c'est dans l'intro. Les temps ont changé, écrivez-vous. Il n'y a plus de débat d'idées à la télévision, une heure de grande écoute. Prenez l'exemple de l'émission Apostrophe, dans laquelle Bernard Pivot recevait des personnalités. Il les faisait débattre sur des questions les plus pointues. Ils étaient quatre autour de la table, les arguments étaient longs, ils étaient circonstanciés, chacun écoutait chacun. Ça, c'est un temps révolu.
Alors, sur la période que j'ai étudiée, c'est pas totalement révolu, puisque je montre qu'il y a des exemples d'émissions où on prenait encore le temps de débattre avec des invités. Et j'ai en particulier étudié l'émission de Frédéric Taddeï, Ce soir ou jamais, qui pour moi est l'exemple type d'une émission qui invite des intellectuels, des penseurs, des chercheurs, des créateurs, des artistes de différents horizons et qui leur donne la parole.
Ouais. On dira un mot de Frédéric Taddeï, mais juste comme ça pour situer, parce qu'on le connaît bien ici, Frédéric Taddeï à Europe 1, moi j'ai même connu avant quand il était sur Radio Nova. Il me disait, quand j'ai fait une émission réussie, c'est que parfois il m'arrive de ne pas parler pendant 15 ou 18 minutes et que ce soit les intellectuels entre eux qui s'interrogent et qui se répondent sans même avoir besoin d'un médiateur.
Oui, alors ça c'est quand même assez exceptionnel. Voilà. Donc cette émission qui a duré une dizaine d'années est quand même l'illustration qu'il était toujours possible de débattre à la télévision. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que la logique, je dirais, économique, concurrentielle, d'audience, a favorisé les débats courts, rapides, les polémiques pour précisément fidéliser le téléspectateur et faire en sorte que le téléspectateur n'aille pas le voir sur la chaîne concurrente.
L'accrocher, voilà. Alors, puisque vous parliez de ça, de mémoire, l'émission de Taddeï a été supprimée faute d'audience, je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais prétexte, et c'était sur le service public. Oui. Je vous cite, le débat a été conçu dès le départ pour être clivant, le choix des participants doit répondre au principe d'une opposition nette des points de vue, le clash est donc d'une certaine façon attendu, on comprend que vous parlez de la télévision d'aujourd'hui. Quand avez-vous vu naître cette recherche du buzz, même l'arrivée de ce mot buzz dans la sphère médiatique, Rémi Rifel?
Alors, je pense que ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord un moment de bascule que je situe aux alentours des années 1990, où on a de plus en plus pratiqué ce qu'on appelle le mélange des genres. C'est-à-dire que
c'est Thierry Ardisson qui a inventé ça.
Exactement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement de l'information, on fait en même temps du divertissement. Parce que pour parler d'un certain nombre d'idées ou de thématiques à l'heure du jour, il faut que le téléspectateurs, ils prennent du plaisir. Et donc, on fait venir sur le plateau des personnalités qui viennent d'horizons très divers. Ça peut être un sportif, une chanteuse, et puis un penseur ou un philosophe.
J'explique pour les plus jeunes, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu les émissions avant les talk shows d'Ardisson. Il y avait des émissions de sport avec des sportifs, des émissions de variété avec des chanteurs, et des émissions politiques avec des politiques.
Exactement.
Et ce qu'a fait Ardisson, et avec Catherine Barma, la productrice, c'est qu'ils ont mélangé, il y avait une top modèle, il y avait un prêtre, un homme politique, un type qui était inconnu, un has-been dont on pouvait se moquer, et tout ce joyeux mélange faisait l'émission.
Voilà, on faisait une sorte de cocktail, et puis on voyait ce que ça donnait, et puis généralement, ça partait un petit peu dans tous les sens, mais en même temps, il y avait de l'animation, il y avait des remarques assez agressives quelquefois, donc des polémiques, et c'est à partir de là que ce modèle s'est mis en place à la télévision française.
Ces émissions avaient également une vertu, c'est que ça faisait entendre à des gens qui n'avaient aucun intérêt, quelqu'un qui était là pour voir un footballeur et qui entendait parler un philosophe.
J'entends bien.
Quelqu'un un gamin de 14 ans n'aurait peut-être jamais entendu parler de Schopenhauer s'il n'y avait pas eu Jean-Pierre Papin.
Effectivement, c'est l'argument qui était avancé, qui est pertinent, c'est vrai.
On est d'accord.
Donc c'est une façon d'attirer notamment le public des jeunes qui s'étaient un petit peu retirés du monde de la télévision et de l'écoute de la télévision.
Ce qui nous intéresse dans votre sujet, c'est qu'est-ce que ça a changé et en quoi ça a infusé, ça a obéré, ça a pénalisé, ça a peut-être même disrupté, pour employer un terme trop moderne pour moi, le débat intellectuel.
Bah écoutez, un débat intellectuel digne de ce nom, c'est un débat où les différents représentants des courants de pensée ont le temps d'échanger, où ils s'écoutent, où ils s'opposent, mais où ils argumentent. Voilà. Or, les talk shows tels qu'ils ont été mis en place à la télévision sont des moments où vous n'avez plus le temps vraiment d'argumenter. Vous avez très peu de vous avez quelques secondes, on retient une petite phrase, on l'a vu dans le domaine politique, ça a déteint dans le domaine intellectuel, et surtout on essaye de faire en sorte que de capter l'attention, parce que le grand critère c'est évidemment capter l'attention, puisque maintenant avec le numérique en particulier, c'est le critère essentiel, donner de la visibilité, captiver l'attention et faire du buzz, donc tout ça est mélangé dans le cadre des émissions de télévision, et donc on cherche à avoir des polémiques. C'est-à-dire ce qu'il faut retenir, c'est que deux philosophes se sont écharpés sur un problème précis, etc. Est-ce que c'est encore un vrai débat intellectuel ? J'en doute un peu.
La mise en scène spectaculaire de ces débats a culminé avec l'émission de Laurent Ruquier. C'était sur France 2. Il a pris la suite d'Ardisson en troisième partie de soirée, 23h30, le samedi soir, une quinzaine d'années. Émission très longue, 3h en moyenne. Il s'agit évidemment d'On n'est pas couché. On va entendre Laurent Ruquier qui revient sur le succès de son émission et entendre un petit medley de l'émission.
On a réduit cette émission au clash. Or, il n'y avait pas que des clashs, mais voilà, les clashs, ça plaît et ça fait le buzz.
Je vais voir, moi, si tout à l'heure, on peut, sur votre spectacle fait pour nous faire rire, dire des choses qui vous ne vous feront peut-être pas forcément rire.
Si vous avez mon talent, avec plaisir.
D'accord.
Il y a des fans d'Hélène et les garçons qui regardent la télé. Oh non, précipitez-vous sur ce livre.
Là, il y a des limites.
Sur cette question générale, il y a l'idée que ce livre n'est pas assez écrit et qu'il faudrait le reprendre, c'est ça l'idée ?
Exactement, oui, il faut tout reprendre, je pense.
Il y a quelques semaines, on avait reçu Karine Lemarchand pour un livre sur les célibataires et je pensais que j'avais lu le livre le plus inutile de l'année.
Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de cette petite jeune femme que vous avez vue démarrer, donc ?
Je ne me serais pas douté, quand j'ai vu ce jeune ange délicieux, qu'elle allait devenir, à mes yeux, le diable de la télé. Parce que ce qu'elle fait, pour moi, c'est l'horreur absolue.
C'est selon moi, pardonnez-moi, le plus mauvais livre que j'ai lu depuis très très longtemps. Depuis, je pense, en ce qui concerne cette émission, attendez, laissez-moi expliquer. Depuis celui d'Alessandra Sublet, peut-être.
Mais j'ai trouvé que c'était à la littérature exactement ce que... Vous voyez, ce que le caprice des dieux est au fromage au lait cru.
Je vais attendre un an de travail, t'arrives, toi, et tu fais... C'est de la merde. Mais
non,
qui tu te prends,
dit,
toi.
C'est de la merde, je n'ai jamais
qui
dit
qui
ça.
Prends, toi.
C'est toi qui m'as dit ça.
Francis, calme-toi. Qui tu te prends.
Mais
Francis, calme-toi. Francis.
On a reconnu Yann Moix, Natacha Polony, Eric Nolot, et puis les invités. Réaction à ce que vous venez d'entendre, Rémi Rifel.
C'est tout à fait l'illustration de ce que j'essaye de montrer, c'est-à-dire qu'on joue sur l'émotion, sur le spectacle, sur la réactivité, les jugements péremptoires et les critiques acerbes. Et donc, vous n'avez même plus le temps d'argumenter, puisque, en fait, c'était des échanges de réactions immédiates sans argument. Voilà.
Avec cette nouveauté, on pouvait recevoir quelqu'un dont on pouvait dire du livre qu'il était mauvais, alors que quand Pivot trouvait qu'un livre était mauvais, il n'invitait pas la personne. Ça aussi, ça a changé.
Ça a tout à fait changé. C'est-à-dire qu'effectivement, on essaye de faire en sorte que les invités puissent s'opposer. Et on sait qu'ils vont s'opposer parce qu'ils ont des idées qui... sont différentes, mais on met l'accent sur ce qui fâche et non pas forcément sur ce qui fait consensus ou ce qui permettrait d'avoir un dialogue. Voilà. Donc le dialogue apaisé est devenu, je dirais, un petit peu marginal.
Comment retrouver le dialogue apaisé ? L'emprise médiatique sur le débat d'idées, c'est la thèse, c'est l'essai de Rémi Rifel est avec nous. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Rémi Rifel, sociologue des médias, l'emprise médiatique sur le débat d'idées, c'est à la fois sa thèse et l'ouvrage qu'il publie chez PUF. C'est sous-titré 30 années de vie intellectuelle, 89-2019. On a entendu des invectives, on a entendu des cris d'oiseaux pour dire les choses. Il y a quand même des choses qui trouvent grâce à vos yeux. Vous pensez quoi d'émissions comme C'est ce soir, C'est dans l'air ou C'est politique ? Est-ce que ce ne sont pas là des espaces tels que vous les définissez au début de votre livre ? Presque, si j'ose dire, à l'ancienne, sans que ce terme soit absolument pas péjoratif.
Oui, absolument. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas avoir une vision caricaturale de la télévision, parce que très souvent, on dit à la télévision, on ne peut plus débattre ce qui est faux. La preuve, effectivement, depuis quelques années, il y a un certain nombre d'émissions qui attirent un public et où on prend le temps de discuter. Alors, vous citiez C'est dans l'air ou bien C'est politique, etc. Et je trouve que ce sont des émissions de qualité qui donnent une bonne vision de ce que c'est qu'un débat d'idées.
Voilà, avec le reproche qui est fait parfois à ces émissions, c'est que tous les intervenants sont du même bord.
Oui, alors ça, il faudrait vérifier. Je veux dire, c'est possible que à propos de certaines thématiques, on réunisse des gens de même opinion. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'opposition forte, comme on pourrait le penser. Ça reste à vérifier. Voilà. Mais je trouve que globalement, c'est à l'honneur de la télévision de continuer à proposer des émissions de ce type-là.
Comment voyez-vous les chaînes d'information continue puisque ça pourrait être une bonne chose pour vous d'avoir du temps, et donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
Eh bien, je pense que les chaînes d'information continue ont précisément accéléré le phénomène de polémique et de débat rapide.
Vous dire qu'on est dans ce paradoxe, je vais synthétiser votre pensée, ils ont du temps et ils n'ont jamais le temps.
Oui, exactement. Et puis, il faut
ils ont toute la journée, on a l'impression
oui,
qu'ils
ils ont
sont
toute
pressés.
La journée, mais c'est quand même un robinet à images et puis à commentaires, donc il faut renouveler constamment le vivier des intervenants. Et alors, il y a un vivier d'experts qui est sollicité en fonction de l'actualité. Alors, c'est vrai que l'actualité a participé à ce phénomène. Je veux dire, par la guerre du Golfe dans les années 90, aujourd'hui, la guerre en Ukraine, vous voyez des généraux, vous voyez des spécialistes de géopolitique. Pendant la pandémie, vous avez vu des spécialistes de problèmes de santé, des chercheurs. Donc ça, c'est exact. Ouais. Mais il y a une rotation extrêmement rapide et le débat est court, là encore. Voilà.
Pendant la pandémie, il y avait des polémiques, on en a beaucoup parlé ici, parce qu'il y a même des gens qui étaient experts alors qu'ils n'y connaissaient strictement
rien. Alors c'est
rien.
Vrai que les experts, alors, dans ce domaine, oui absolument, les experts entre eux se contredisaient, on est bien d'accord. Bon, voilà, d'où une remise en cause un peu de la parole des chercheurs et des savants qui est un petit peu regrettable, parce que évidemment ça donne le sentiment qu'ils ne sont pas fiables.
Et les réseaux sociaux, comment voyez-vous ça? Est-ce que c'est un espace qui donne du temps? Alors d'abord, de la complexité, ou est-ce au contraire un espace qui oblige à ramasser sa pensée et donc à dire, à énoncer des caricatures?
Alors d'abord, il y a un côté positif à propos de l'essor des réseaux sociaux, c'est que ça élargit la prise de parole. C'est-à-dire le coût d'entrée est beaucoup plus faible. Quand vous êtes invité par un journaliste des médias traditionnels, vous êtes sélectionné, vous n'avez pas forcément la possibilité de vous exprimer. Sur les réseaux sociaux, tout le monde, à la limite, peut prendre la parole et s'exprimer. Et donc, ça change quand même la donne. Voilà. Alors, du coup, comme tout le monde s'exprime et qu'il y a de plus en plus de sites, de plateformes, etc., il est très difficile de se repérer. Je pense que l'une des difficultés actuellement dans le système médiatique, c'est que le grand public a du mal à repérer les sites fiables d'information ou de débat, parce qu'ils les connaissent mal et parce que, précisément, ils ne sont pas labellisés. Contrairement à des médias traditionnels très légitimes, qui ont une forte notoriété. Est-ce que ça favorise... Alors, ça favorise la prise de parole, ça élargit la possibilité pour un certain nombre de chercheurs, d'intellectuels de se faire connaître, et de jeunes collègues de 30, 40 ans qui, autrefois, n'auraient pas pu diffuser leurs travaux auprès d'un public plus large et qui, aujourd'hui, peuvent le faire sur des sites, des archives ouvertes, etc. Donc, tout ça est positif. Le revers de la médaille, vous savez très bien, c'est que les réseaux sociaux, ça fonctionne à la viralité, ça fonctionne à une circulation extrêmement rapide. Et donc, là aussi, c'est une forme de simplification et de caricature.
Je reviens à un terme que vous venez de citer, le mot sélection, l'emprise médiatique sur le débat d'idées.
Oui.
Est-ce que chez les intellectuels, la sélection peut se faire sur de mauvais critères, comme un footballeur qui serait choisi en fonction du fait qu'il ait ou non une belle gueule? Est-ce qu'il y a des intellectuels plus intéressants que d'autres qu'on ne voit pas parce qu'ils passent mal à l'écran? Si je veux dire, ça se trouve, Schopenhauer et Spinoza étaient nuls à l'oral.
Ils n'auraient certainement pas été invités.
Et peut-être que Kant était parfait.
Oui,
remporter le débat. Est-ce qu'il y a des injustices?
Absolument.
Où la forme touche le fond et éclipse le fond.
Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de chercheurs, aussi bien dans le domaine des sciences humaines, des sciences sociales que des sciences dites exactes, qui produisent des travaux extrêmement pointus et riches, qui n'ont pas accès à la parole médiatique, qui ne sont pas sélectionnés et invités par les journalistes, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce ne sont pas de bons clients. C'est-à-dire qu'il faut savoir vulgariser, simplifier. Ça n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Moi, je connais des chercheurs qui sont excellents, mais qui ne savent pas très bien s'exprimer à l'oral. Et eux sont forcément marginalisés et invisibilisés. Bon, ça, c'est un fait. Le deuxième phénomène, c'est que certains d'entre eux ne souhaitent pas, ou en tout cas, espèrent ne pas trop être sollicités parce qu'ils ont peur précisément de cette logique médiatique qui les conduit à être dans le spectaculaire et de ne pas avoir le temps. Donc, c'est ce que on connaît ce phénomène. Pierre Bourdieu l'avait analysé à l'époque en disant on n'a pas le temps dans une émission de télévision ou même une émission de radio de véritablement développer sa pensée. Donc, pourquoi y aller? C'est perdre son temps. Et donc, il y a des arguments de ce type-là qui existent. Et donc, ceux qui sont sollicités sont globalement, effectivement, des chercheurs qui ont intégré, les formats télévisuels, les routines de présentation dans le monde des médias.
Je suis obligé de vous poser la question. Et vous-même, Quel alors moi je suis très avec les médias. Déjà on est très heureux, vous êtes ici.
Oui, je vous en remercie.
Donc, je vous ai dit oui. Non, parce qu'on n'était pas certain que vous acceptiez.
Exactement.
On s'était justement dit, c'est peut-être, peut-être applique-t-il totalement sa thèse à lui-même.
Oui.
Et il préfère rester chez lui dans son bureau.
Non, alors il est de mon devoir quand même de faire part de mes travaux, parce que ça fait partie de ma mission d'enseignant chercheur. Et donc il y a pas de raison de ne pas vulgariser sa pensée ou sa recherche. En revanche, effectivement, je suis très prudent. Et souvent, quand je suis sollicité par des journalistes, je refuse. Pourquoi est-ce que je refuse ? Parce qu'on me croit omniscient. C'est-à-dire que je suis étiqueté sociologue des médias. Donc, tout ce qui touche les médias, je suis censé pouvoir y répondre. Et donc, les journalistes me sollicitent sur des questions sur lesquelles je n'ai aucune compétence.
Ah oui, par
donc,
exemple,
quand je n'ai aucune compétence, ben, je dis non. Voilà.
Par exemple ?
Par exemple, si on me demande de travailler sur l'importance, je ne sais pas moi, des émissions de télé-réalité, ce qui a été le cas récemment, je dis, bah, je n'ai pas grand-chose à dire, je n'ai pas étudié la question, je refuse.
Est-ce que c'était mieux avant, la télévision ? Je suis obligé d'être abrupt, puisque vous qui
voyez
l'évolution...
Je me méfie des analystes qui consistent à dire il y avait un âge d'or antérieurement, la nostalgie de ce qui se passait il y a 20 ans... Je suis pas dans cette analyse. Je pense qu'il faut travailler avec son temps. Il faut prendre j'essaye de constater ce qui se passe et puis de s'adapter. Voilà. Et le gros travail des journalistes aujourd'hui, c'est de s'adapter aux nouvelles conditions de médiatisation. Et je pense qu'on peut toucher les jeunes aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, avec des idées, leur donner envie d'aller plus loin. Mais c'est un travail qui se fait petit à petit.
L'emprise médiatique sur le débat d'idées, on a fait ce qu'on a pu ici. On pourrait parler des heures de chaque chapitre. Un grand merci, Rémi Rifel, d'être venu exposer votre thèse ici dans Culture Média en direct.
Merci à vous.
Dans un instant, comme tous les vendredis, on va parler sport, l'actu et les coulisses du sport business et du sport média. C'est Sacha Nokovic de l'équipe et on va retrouver également Bruno Donnet pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans un instant, on retrouve Sacha Nokovic et sa chronique Sport Média. On le retrouve, mais il est déjà là. Bonjour Sacha.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous allez nous parler d'un doc Netflix consacré à la corruption et la FIFA et un boycott de certains médias par un certain pilote de F1 qui, ça peut bien être, qui a pourtant tout pour être heureux. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici les soubresauts médiatiques. Et hier soir, vous avez été très intéressé par l'interview de Gérald Darmanin aux 20h de TF1.
Oui. Alors avant de commencer, Philippe, il faut tout de même que je vous dise un petit mot du contexte. Car hier soir, comme le reportage qui ouvrait le journal de la première chaîne l'a parfaitement rappelé, l'actualité était extrêmement houleuse sur le front d'un thème birement éruptif, l'accueil que la France réserve aux migrants naufragés.
Après des semaines d'errance, l'Ocean Viking vient tout juste de mettre le cap sur Toulon.
Vous savez que l'Italie a rejeté un bateau chargé de réfugiés loin de ses côtes et donc hier, Gilles Boulot nous l'a dit, il s'est produit un événement absolument sans précédent.
Pour la première fois, la France les accepte sur son sol, ce qui n'était jamais arrivé auparavant.
Le hic, c'est qu'au moment où la question de l'immigration devient le thème central du débat politique, au moment où elle sert de carburant puissant au Rassemblement national et à ses 89 députés.
Marine Le Pen, par exemple, dit « c'est un signal dramatique de laxisme ce qui se passe aujourd'hui ».
L'accueil de ce bateau en France constitue une voie d'eau très préoccupante pour le gouvernement. Alors, pour tenter d'écoper le flot d'émotions suscité par cette insubmersible information, hier soir, le ministre le plus droitier, le plus ferme, celui de l'Intérieur, était en opération sauvetage aux 20h de TF1.
Bonsoir Gérald Darmanin.
Bonsoir. Seulement voilà, sa communication de crise a fait plouf. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que Gérald Darmanin a méchamment ramé. On l'a vu en totale perdition, au milieu du gros paquebot de l'info, au point que lorsqu'il s'est mis à évoquer le navire des migrants, sa langue s'est brusquement mise à fourcher et on a alors éprouvé la terrible sensation que celui dont il parlait, eh ben c'était lui.
Le droit de la mer qui veut qu'un navire, lorsqu'il est en détresse, doit aller au port le plus proche.
Voilà, Gérald Darmanin, un ministre tanké au port de la détresse. Mais, non content de ramer, notre naufragé de la com politique a également tenté de minimiser. Et il a donc proposé un savoureux calcul, rappelant d'abord que ces migrants étaient à peine 234, mais surtout...
Il y a déjà deux tiers de ces 234 personnes qui iront dans d'autres pays.
Que les deux tiers d'entre eux iraient ailleurs qu'en France, et même très rapidement. Où ça ?
Alors d'abord l'Allemagne, plus de 80 personnes sont déjà potentiellement en Allemagne dès demain après-midi ou samedi.
Voilà, c'était plus Darmanin, c'était Dardarmanin. Les migrants partiront dès demain. Bien, mais alors il restait quand même un tiers du bateau à caser. Alors là, pas de problème, Philippe, parce que le tiers qui reste, eh bien, ça concerne des gens qui ne pourront pas bénéficier du fameux droit d'asile. Et donc,
tous ceux qui ne pourront pas avoir l'asile repartiront directement dans leur pays d'origine.
Voilà, pas de problème, ils n'ont pas encore débarqué de leur rafio, qui sont déjà dans l'avion. Mais le pompon, Philippe, le summum de l'opération « Comment tenter de mener les téléspectateurs en bateau ?» Eh bien, je l'ai entendu au moment où Gilles Boulot a demandé à son invité ce que ces pauvres gens allaient faire à Toulon.
Ils ne pourront pas sortir du centre administratif où on va les mettre. Ils ne sont donc pas légalement sur le territoire national.
Eh oui, vous avez bien entendu, Toulon n'est plus en France. Enfin, plus vraiment, en tout cas, plus depuis hier.
Ils ne sont donc pas sur notre territoire national au sens juridique du terme.
De l'art de ne jamais perdre le Nord et d'utiliser la communication politique comme une bouée canard.
Merci beaucoup Bruno Donnet. Bon week-end, à lundi Bruno.
À lundi.
Il est 9h47 sur Europe 1. On est en direct, jour férié ou pas, comme chaque vendredi. Jour férié ou pas, c'est Sport Média avec Sacha Nokovic. Rebonjour Sacha.
Rebonjour.
Votre programme du jour aujourd'hui.
Un documentaire sur les dangers du jeu de tête chez les footballeurs et Max Verstappen, double champion du monde de F1, mais aussi champion du boycott des médias.
Mais d'abord, pour commencer, vous avez regardé le documentaire de Netflix consacré à la face sombre de la FIFA. La FIFA, c'est l'instance dirigeante du foot mondial et c'est pas très beau à voir.
Ouais, franchement, nos auditeurs ont deux options. Soit ils veulent continuer de rêver et regarder la Coupe du Monde au Qatar dans 9 jours tranquillement, soit ils allument Netflix et regardent FIFA, ballon rond et corruption et risquent de faire quelques cauchemars, c'est ce qui m'est arrivé en tout cas pour moi. Pendant 4 épisodes d'une heure, il est question de compromission, de coups bas, de pots de vin, de magouilles en tout genre. C'est à vous dégoûter du football. Alors on a beaucoup parlé en ce moment des soupçons de corruption autour de l'attribution du mondial au Qatar, mais on se rend compte qu'en fait ce système de corruption, il est endémique à la FIFA. Et si je vous en parle ce matin, c'est que l'un des premiers scandales de la FIFA est lié à l'explosion des droits télé marketing. C'était en 1982. C'est autour évidemment de la Coupe du Monde. À l'époque, Horst Dassler, qui est le grand propriétaire d'Adidas, voilà une occasion en or de faire du business, d'acheter tous les droits mondiaux et de les revendre à la découpe pour faire du bénéf. Il crée une nouvelle société qui s'appelle ISL et aurait versé un premier pot de vin $1 million à João Havelange, le président de la FIFA à l'époque. C'est le début d'un système qui va durer des années.
Havelange se fichait un peu de savoir s'il les vendait bien au prix du marché. Ce qui l'intéressait, et c'est là que les choses se gâtent, c'était de savoir combien Dassler allait lui donner sous la table en échange des droits.
Et le cerveau de toute l'affaire, c'était Horst Dassler. Une fois qu'ISL a obtenu le monopole de fait des droits, ça a été le début d'une ère obscure.
Après Havelange, c'est Sepp Blatter qui occupe le poste de président de la FIFA de 1998 à 2015. C'est justement sa quête du pouvoir et sa chute brutale qui sont au cœur du film. Alors lui-même témoigne, évidemment, il n'a rien vu, rien entendu, il est responsable de rien. Mais c'est finalement l'un de ses anciens conseillers, Guido Tognoni, qui résume le mieux cette sombre histoire.
On a le droit de se poser la question, pourquoi les fans devraient se soucier de la corruption dans le sport? On devrait s'en soucier parce qu'on continue à faire croire au monde que le sport est quelque chose de beau, de juste, de divertissant, de propre. C'est faux, mais l'illusion demeure. Autant arrêter de lutter contre la corruption si on n'y fait rien dans le sport.
Avoir donc sur Netflix 4 fois une heure, il faut les remplir les 4 heures, je comprends que vous fassiez des cauchemars. Le foot perd la tête, mais cette fois littéralement, c'est un sujet tabou qu'aborde toutefois un doc sorti hier sur l'équipe Explore, l'univers long format de la plateforme L'Équipe.
Oui, ça s'appelle un football sans tête. Alors on connaissait les conséquences dramatiques des chocs à la tête dans le rugby ou le football américain, mais dans le foot c'est vrai, notamment en France, ça reste un sujet tabou, on a du mal à en parler. Alors le film montre quand même qu'en Angleterre, le sujet commence à être pris au sérieux avec une étude réalisée sur des joueurs ayant évolué de 1900 à 1980. Et bien par rapport à la population générale, à vous, à Bruno, à moi, et bien le footballeur aurait 3,5 fois plus de risques de développer des maladies neurodégénératives.
Oh non, non. Vous nous connaissez mal.
Et si vous êtes défenseur, je suis sûr que vous êtes défenseur, Bruno, c'est 4 à 5 fois plus que la population générale. Alors pour sensibiliser, chaque année, des femmes et des enfants de footballeurs anglais victimes organisent un match et vous allez comprendre pourquoi.
Ce match est aussi pour les familles de ces destins brisés. Au milieu des spectateurs, John Stiles, fils de Nobby, légende du foot anglais. Son père est devenu champion du monde dans l'équipe mythique de 1966, où la démence a prospéré comme un fléau. 4 des 11 joueurs en sont morts et un 5e en souffre au quotidien.
Chiffre impressionnant. Alors, on ne m'a pas posé la question, je vous réponds. Moi, j'étais défenseur, mais j'étais trop petit pour les têtes. Donc, sur les corners, c'était les grands qui montaient. Donc,
vous
c'est eux qui
vont.
Voilà. Sérieusement, est-ce qu'on pense à arrêter, à interdire le jeu de tête dans le foot?
Le documentaire le rappelle, ni la FIFA, ni l'UEFA qui organisent les compétitions de foot dans le monde n'y réfléchissent pour le moment. C'est vrai que c'est assez dramatique. En revanche, en Angleterre, par exemple, chez les jeunes, c'est interdit désormais, ça a été instauré. Et en France, eh ben on commence à se poser la question avec des ballons en mousse à l'entraînement, par exemple. Mais les réalisateurs ont posé la question directement aux médecins de la Fédération française de foot sur le sujet.
Pour nous, ces décisions seront prises durant, à la fin de cette saison, pour la saison prochaine. C'est très clair.
Donc aujourd'hui, vous m'annoncez quasiment officiellement qu'elles vont changer les règles.
Les règles de prise en compte de, comment dire, de l'apprentissage du jeu-tête, on le souhaite en tout cas. Ouais.
Et nous aussi, on le souhaite. Ce dimanche, c'est l'avant-dernier Grand Prix de la saison. On parle de Formule 1, c'est à São Paulo au Brésil. Max Verstappen a tout pour être heureux. Il est déjà champion du monde. Ah, j'adore cette musique.
Ouais,
j'ai l'impression que ça démarre. Je suis en train de me préparer, je suis en train de monter le son. Verstappen a gagné 14 courses cette saison. C'est déjà un record. Et pourtant, il est en froid avec certains médias.
Et avec tout le groupe Sky Sports, qui est le diffuseur majeur de la F1. Alors, Verstappen l'a annoncé il y a deux semaines. C'était au Grand Prix du Mexique. Il est même soutenu. Par son équipe.
Il passe derrière lui, il se barre. Il ne veut pas entendre ça.
En tout cas, il est soutenu, il n'est pas seul, par son équipe Red Bull qui le suit dans ce boycott. En fait, c'est Ted Kravitz, un journaliste de Sky, un journaliste anglais, qui a répété à plusieurs reprises cette saison que Verstappen avait volé le titre de champion du monde la saison dernière à Lewis Hamilton lors de la dernière course. Évidemment, ras-le-bol du pilote néerlandais qui dénonce un acharnement constant et irrespectueux. Alors, Verstappen prend-il un risque à ignorer la chaîne Sky Sports? Réponse avec l'intervieweur F1 de Canal+, Laurent Dupin.
C'est quand même assez osé de sa part, car la F1 est un milieu très britannique. 7 écuries sur 10 sont basées en Grande-Bretagne. En plus, quand on sait que Sky est aussi diffuseur en Allemagne et en Italie, c'était assez osé de les boycotter. Alors qu'il est facile, en plus, dans la zone d'interview, de faire semblant de ne pas voir une télé, de ne pas répondre à un journaliste en disant « Ah oui, je ne vous avais pas vu ». Non, lui, Verstappen, il a annoncé sa décision, il l'a assumé.
Et c'est une forte tête, Verstappen, ce n'est pas la première fois qu'il boycotte un média.
Non, vous avez raison, Philippe, l'an passé, c'est la série Netflix, Drive to Survive. Il ne voulait plus en reparler pendant une saison. Il estimait qu'il travestissait la réalité, qu'il créait des rivalités qui, selon lui, n'existaient pas. Mais ça s'est arrangé depuis. En fait, Max, il est comme ça, il boude, mais ça ne dure jamais très longtemps. Par exemple, hier à Sao Paulo, il a commencé à répondre enfin de nouveau à Sky Sports. C'était lors d'une conférence de presse. En fait, il demande juste un peu d'objectivité. C'est ce que nous explique encore une fois Laurent Dupin de Canal+.
Verstappen, il aime bien les vraies questions, celles auxquelles il peut donner une réponse argumentée, une explication, un détail de pilotage ou quelque chose de technique. En fait, il déteste les questions plus simples ou quand on lui demande « que va-t-il se passer en course ?». Là, il vous met dans le mur en répondant « on verra bien ».
En tout cas, il va répondre aux journalistes français. Hein, et le Grand Prix, je regarde ça parce que le Grand Prix du Brésil, c'est à suivre ce dimanche à 19h sur Canal Plus Sport 360. Mm-hmm. Mais pour moi, ça commence avant. Il y a les essais.
Bien sûr.
Moi, je regarde ce soir les essais libres. J'ai déjà noté. Je me suis déjà fait mon petit schedule. Les essais libres, c'est à 16h30 et les qualifs vendredi à 20h parce qu'il y a toute une histoire. Il y a la course sprint aussi demain. Non, il y a un gros, gros Grand Prix du Brésil. Merci beaucoup, Sacha.
Merci à vous.
Nokovic, on vous retrouve la semaine prochaine. On peut vous lire évidemment dans l'équipe. Bruno Donnet, merci d'avoir gâché cette carrière de défenseurs d'attaquants, de n'avoir fait pas de tête et de garder tous vos neurones pour vos chroniques.
Vous m'avez donné envie de revoir le film de Jean-Jacques Hano, Coup de tête.
Ah, c'était extraordinaire.
C'est
voilà. Et c'est comment ça se passe sur un corner quand on se tape la tête. Télescopage, non. Hommage à Bruno Donnet. Culture Média continue, à tout de suite. Dans un instant, notre invité, ça sera une légende du cinéma, Claude Lelouch, qui propose un spectacle symphonique, Claude Lelouch, d'un film à l'autre. 80 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Prague au Palais des Congrès à Paris. Vous allez dire, c'est encore à Paris? Non, ça part ensuite en tournée dans toute la France. Ça sera presque dans un an. Et puis dans Les Indispensables, Nicolas Carreau, il nous parle d'un polar britannique. Et puis Jean Zen nous parle de jeux vidéo, un des jeux d'action-aventure les plus attendus de l'année. Ce qui est très attendu aussi, c'est Noël. Jean-Luc Lemoine sera là pour notre session de rattrapage. Et je n'oublie pas les infos de 10h. À tout de suite sur Europe 1.